tout de suite le journal d'Antoine. Merci Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après 2 jours de grève à la SNCF, la situation reste bloquée apparemment. Édouard Philippe affirme que l'arrêt des recrutements au statut de cheminot n'est pas négociable, non plus d'ailleurs que l'ouverture à la concurrence, suivi du conflit avec Anne-Laure Chouin. Le projet du gouvernement sur la révision des institutions, qui prévoit notamment l'introduction d'une dose de 15% de proportionnelle aux législatives et une réduction de 30% du nombre des parlementaires. Analyse de Stéphane Robert, commentaire de Ludovic Piétenu. Au Brésil, les juges du tribunal suprême sont sur le point de rejeter le recours de l'ancien président Lula da Silva, qui conteste sa condamnation à 12 ans de prison, suivi d'Éric Biegela. Et puis à New York, tension après la mort d'un noir abattu par la police. L'homme aurait tenu un tuyau d'arrosage à la main, que les policiers auraient pris pour une arme. Le récit de Mathieu Laurent, l'invité de la séquence interview, notre consoeur Manon Kérouille-Brunel, auteur de La part du ghetto chez Fayard, dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Jesbert.
Après le Pays Basque, direction le Chiapas avec un historien médiéviste, notre invité Jérôme Bachet. Il revient sur les régimes d'historicité qu'a défini François Hartog pour nous expliquer qu'il serait peut-être temps de ralentir un tout petit peu alors que la société s'accélère de partout.
Alors que les plusieurs mouvements sociaux agitent le pays, à la SNCF contre la réforme du gouvernement, à Air France pour les salaires dans les universités, alors qu'un mécontentement s'exprime aussi, rappelons-le, dans les établissements pour personnes âgées, les EHPAD, dans les hôpitaux, ou chez le géant de la distribution Carrefour, eh bien les responsables des principaux syndicats, CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE, CGC, annoncent ce matin une réunion pour la semaine prochaine pour, disent-ils, faire le point de cette situation. Et le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, estime que si le gouvernement n'apporte pas de réponse, eh bien cela va se dégrader. Est-ce que ce sera le cas pour ce conflit à la SNCF? En tout cas, après 2 jours de grève, le conflit reste bloqué. Édouard Philippe déclare que l'arrêt des recrutements au statut de cheminot, qui est l'un des points de discorde les plus vifs avec les syndicats, n'est pas négociable. Il ajoute que le gouvernement ne va pas revenir non plus sur l'ouverture à la concurrence, ni d'ailleurs sur la refonte de l'organisation de la SNCF. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, prochain jour de grève, donc dimanche et lundi, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette entre-deux grèves?
Eh bien, dans un premier temps, ce qui va ressortir de l'entrevue de cet après-midi au ministère des Transports entre Elisabeth Borne et les fédérations syndicales de cheminots. Pression supplémentaire sur la ministre. L'annonce de la CFDT cheminots qu'elle repartira bien pour les 2 prochains jours de grève, au motif que, selon Laurent Berger, les propositions mises sur la table par le gouvernement ne sont pas acceptables en l'état. Les syndicats de cheminots sont de toute façon préparés à ce qu'ils appellent une grève marathon et non pas une grève sprint, un marathon qui, selon l'avis de toutes les fédérations, a connu un départ très encourageant, même si Sudrail propose déjà des alternatives et souhaite un mouvement plus dur qui se traduirait au choix par le lancement d'une grève reconductible et illimitée dès à présent ou par une grève de la gratuité, faire rouler les usagers gratuitement. Mais cela implique un fort taux de grévistes chez les agents commerciaux, d'où la difficulté. En tout cas, cette stratégie de la grève perlé qui permet dans une certaine mesure aux usagers d'organiser tout de même leur déplacement affole au moins la direction de l'entreprise. Quant au gouvernement, il fait mine pour l'instant de ne pas se laisser impressionner. Il s'est d'ailleurs laissé assez peu de marge de manœuvre au cas où le mouvement s'éternise en ne souhaitant transiger, vous l'avez dit, sur aucune des lignes rouges des syndicats et notamment l'embauche au statut.
Et voilà, donc la situation bloquée toutefois sur cette question de la dette de l'entreprise. Le Premier ministre a semblé moins catégorique. Je suis ouvert à la discussion, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel rythme, et en contrepartie d'engagements extrêmement clairs, extrêmement fermes, qui transforment le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Bon, peut-être une petite ouverture, c'était Édouard Philippe ce matin sur France Inter. Anne-Laure Chouin, est-ce que sur ce terrain de la dette, par exemple, il pourrait se négocier une sortie de crise?
Alors, pour l'instant, c'est non. Côté syndical, Philippe Martinez dénonce même un chantage, il estime, et les autres syndicats avec lui, que lier reprise de la dette par l'État et un effort sur le statut, c'est mettre en rapport deux sujets qui n'ont rien à voir. Et de fait, la dette de la SNCF, 50 milliards d'euros, on le rappelle, n'est pas du fait des cheminots, ni d'ailleurs des usagers. Elle serait même plutôt du fait de l'État lui-même. Plus exactement, transporter des voyageurs nécessite des infrastructures très lourdes. Ça n'est pas exactement rentable. Et puis, lorsque l'Europe a demandé en 91 aux États de réduire l'endettement de leurs compagnies ferroviaires, la France a fait le choix, plutôt que de la reprendre, cette dette, à son compte, comme avait fait l'Allemagne, de transférer cette dette dans un service annexe dit d'amortissement de la dette. Depuis, loin de diminuer, cette dette a doublé, notamment parce que, sous pression de l'État toujours, la SNCF s'est vue contrainte de construire des lignes à grande vitesse, certaines non rentables, ou encore d'acheter du matériel ferroviaire à Alstom, par exemple, pour soutenir l'industrie ferroviaire. Mais reprendre la dette aujourd'hui pour l'État, cela signifierait repasser presque automatiquement au-dessus de 3% de déficit public, d'où les réticences.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Conflit salarial à Air France qui s'est encore durci après l'annonce par 10 syndicats de tout métier de 4 journées de grève supplémentaires, 17, 18 avril, puis 23 et 24 avril. L'intersyndicale dénonce un simulacre de négociation, affirme qu'elle reste déterminée donc à poursuivre le combat jusqu'à l'obtention d'une augmentation de 6% des grilles de salaire pour tous. À noter que 18, 23 et 24 avril, ça a coïncidé avec les dates de grève qui sont programmées à la SNCF. À propos de la question posée d'une possible convergence des luttes, les avis restent partagés. Je vous propose d'entendre celui du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a critiqué ce matin sur BFM TV cette stratégie qui est notamment prônée par la CGT. Il estime que cette approche politique est un leurre pour les travailleurs. On l'écoute.
Je ne crois pas à la convergence des luttes. Tout simplement parce que la convergence des luttes, au service de quel résultat? Au service de quelle finalité? Le syndicalisme aujourd'hui, oui, il est confronté à un défi. C'est de montrer son utilité concrète aux travailleurs. Et il le montre parce qu'il résout les problèmes. Vous savez, pour les travailleurs de doux, je prends cet exemple-là. Si on veut se battre pour que le repreneur soit LDC, avec le maintien de l'emploi, avec l'accompagnement des salariés qui sortiront de l'entreprise, eh bien, c'est pas en faisant une convergence des luttes qu'on y arrivera. C'est en travaillant concrètement avec nos élus dans l'entreprise et en interpellant le patron et les pouvoirs publics sur cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, parlons du concret. Tiens, arrêtons les jeux de posture. Les jeux de posture, c'est quand un gouvernement pense qu'il lui faut une bonne opposition bloc contre bloc pour montrer qu'à la fin ils gagnent. Le jeu de posture, c'est quand des organisations syndicales considèrent qu'elles sont dans un rôle politique au lieu d'être un rôle de résultat concret pour les travailleurs. Moi, je ne suis pas là-dessus.
Laurent Berger avec Jean-Jacques Bourdin. Nous saluons l'invité de la dernière partie de la Grande Table, l'historien Jérôme Bachet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de participer aussi à ce journal, même si vous nous parlez de défaire la tyrannie du présent, le titre de votre livre publié aux éditions La Découverte, dont on parlera dans la dernière partie. Donc, bon, la tyrannie du présent, c'est un peu notre lot à la rédaction, enfin dans les rédactions en général, oui, sur cette question aujourd'hui politique de convergence des luttes, de situation sociale, de situation politique bloquée. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme impression en tant qu'historien, spécialiste aussi, précisons-le, du mouvement zapatiste?
Alors, je ne sais pas si l'expression de convergence des luttes est la plus appropriée, mais en tout cas, il y a beaucoup de mécontentements. Ils sont divers, chaque lutte a ses particularités, et simplement, elles peuvent effectivement s'ajouter les unes aux autres. Donc c'est effectivement un moment crucial, un moment de vérité du quinquennat Macron qui se joue dans ce mouvement qui est peut-être en train de naître. Hein.
Dans quel régime d'historicité finalement se situe ce quinquennat de Macron? Enfin, la manière dont il perçoit l'histoire.
C'est l'accentuation des logiques de l'économie, de la marchandisation dans l'ensemble des secteurs. La réforme de la SNCF n'a pas d'autre objectif. Hein. Et donc, c'est l'accentuation de ce que j'appelle le présentisme. On en reparlera tout à l'heure.
Voilà, qu'il faut peut-être préciser quand même. En gros,
tout se joue dans le présent. On perd les perspectives, une perspective véritablement historique, avec un véritable rapport historique au passé, et puis des perspectives de futur qui autorisent de véritables choix. Or, là, justement, il n'y a pas de choix. De toute manière, on nous dit... C'est décidé puisque c'est les directives européennes de la mise en concurrence, donc il n'y a pas de choix possible, donc il n'y a pas de véritable ouverture quant au choix relatif au futur que l'on souhaite.
Jérôme Bachet, merci beaucoup. On vous retrouve donc dans la dernière partie de la Grande Table. À l'issue d'un mois de consultation, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé hier le projet du gouvernement sur la révision des institutions. Il prévoit ce projet l'introduction d'une dose de proportionnelle, donc 15% aux législatives et puis une réduction de 30% du nombre des parlementaires. Comme annoncé donc par le chef de l'État, la spécificité de la Corse va être également mentionnée dans la Constitution, sous un format qui reste d'ailleurs encore un peu flou, tout comme l'impératif de la lutte contre le changement climatique à l'article 34. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
On connaissait quand même les contours de cette réforme grossièrement. L'élément nouveau, c'est quand même peut-être cette annonce qu'elle ne va intervenir que l'an prochain, c'est-à-dire enfin en tout cas qu'on en parlera et qu'elle sera discutée l'an prochain en 2019. Dans le climat général, est-ce que le gouvernement veut temporiser maintenant sur ces questions?
Oui, on a l'impression qu'il essaie un peu de calmer le jeu en faisant des concessions, en expliquant que c'est une base de départ qu'on va discuter et puis, vous le disiez, en reportant cette réforme à 2019, alors qu'elle devait être adoptée au pas de charge au plus tard, nous disait-on, juste après l'été. Pourquoi ? Parce que sur le plan politique, ça n'est pas rien cette réforme. Elle porte en elle des changements structurels assez importants pour le fonctionnement de la vie politique française. Et ce sont deux dispositions qui pourraient modifier beaucoup de choses. D'une part, la réduction du nombre de députés, moins 30%, on passerait de 577 à 400. D'autre part, l'introduction d'une dose de proportionnelle, 15%, ce qui signifie que sur ces 400 députés, on va en élire 60 à 70 à la proportionnelle, en fonction du parti politique auquel chaque candidat est affilié. Du coup, on va complètement redessiner la carte électorale. De 577 circonscriptions, on va passer à 400, moins 70 députés élus à la proportionnelle, ça fait 330-340 circonscriptions, c'est pratiquement moitié moins. Ça veut dire qu'on les agrandit considérablement, on va faire en sorte que le député sera beaucoup moins connu sur son territoire qu'il ne l'est aujourd'hui. Il devra son élection à la couleur du parti politique auquel il appartient, beaucoup plus qu'à ce qu'il défend devant ses concitoyens. Il sera donc moins indépendant, plus soumis à la ligne politique défendue par sa formation politique, selon qu'elle appartient à la majorité ou à l'opposition. Quant à la proportionnelle, 15% des députés élus selon le résultat des partis au niveau national. C'est-à-dire que vous favorisez là les formations politiques qui présentent des candidats partout, dans toutes les circonscriptions. La France Insoumise, par exemple, le Front National, un parti qui présente des candidats partout, même s'il ne fait que 4% en moyenne, aura des députés élus à la proportionnelle. En revanche, vous désavantagez les partis qui ne réussissent à exister qu'en passant des alliances, l'UDI, le MoDem, le Parti communiste. On favorise donc les partis puissants, majoritaires, et les formations situées aux extrêmes de l'échiquier politique qui ne passent pas d'alliance. C'est-à-dire que potentiellement, on consolide l'équilibre actuel, La République En Marche, comme grand parti du centre, et on fait petitement émerger les partis extrêmes sur les côtés. C'est pour ça que personne n'est content ce matin. Mais comme il y a des foyers de contestation qui semblent plus importants que prévu, il convient de temporiser, de ne pas allumer tout de suite de nouveaux fronts. C'est pour ça qu'on entend des propos apaisants du côté du gouvernement depuis ce matin, notamment de la part du pompier en chef, le Premier ministre Édouard Philippe.
Merci beaucoup Stéphane Robert, pompier en chef. Vous avez prononcé ce terme effectivement pour clore ce chapitre. On évoque la position actuellement du Premier ministre sur plusieurs fronts, de Notre-Dame-des-Landes à la SNCF, en passant par les facs et puis cette réforme institutionnelle. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Ah, il faut dire que l'élan réformateur du président ne rentre pas toujours facilement dans la réalité et c'est un peu le rôle du Premier ministre.
Oui, il faut d'abord avoir en tête le nombre de dossiers que ce gouvernement a ouverts et puis la rapidité dans cet exercice. C'est un train de réforme lancé à toute vitesse, celle des institutions annoncées en pleine agitation sociale, l'évacuation prochaine de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes prévue pour lundi prochain, après que le Premier ministre a lui-même endossé et présenté le choix de l'abandon du projet, comme il a endossé lui-même l'impératif de sécurité routière en prévoyant de réduire la vitesse de 90 à 80 km/h, comme il endosse cette réforme ferroviaire et d'autres. En tout, ce sont environ 26 réformes engagées ou lancées en 10 mois, dont un tiers déjà réalisé. Et si tout se passait comme prévu les premiers mois, on assiste maintenant à quelques ralentissements ou reports. La réforme des institutions sera plutôt pour l'an prochain. Celle des retraites, idem. La loi d'orientation sur les mobilités, censée entre autres choses définir la politique des transports et les priorités d'investissement, était attendue ce mois-ci. Elle est une des victimes collatérales de la réforme de la SNCF. Elle ne sera pas présentée en Conseil des ministres avant, dit-on maintenant, le mois de juillet ou septembre. Et puis Édouard Philippe devait s'absenter ce week-end aussi pour se rendre au Mali. Matignon annonçait hier soir le report de ce voyage. Il est important d'être présent et vigilant. Finalement, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, doit penser l'exécutif, qui pourrait alors imaginer une réforme du temps s'il veut mener tous ses projets à bien. Le bulldozer va passer, ils en sont convaincus. L'exécutif sait qu'il surfe encore sur la dynamique de l'élection, la vague de la légitimité. Mais avec un risque, celui que quand la liste des réformes s'allonge, que les contestations s'agrègent, et de ne plus savoir du côté de l'exécutif, du chef du gouvernement et de ses ministres, comment argumenter. Exemple, Édouard Philippe ce matin sur France Inter avec Nicolas Demand.
C'est une conviction.
Oui, bon, donc...
C'est une conviction.
Elle n'est pas étayée sur autre chose qu'un sentiment personnel.
Non, elle est étayée sur l'expérience et sur la comparaison.
Le risque, c'est de ne plus avoir d'autres arguments que quelques certitudes qui pourraient passer pour une forme de morgue et de mépris.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup. Bah, on vous a étendu la perche pour Jérôme Bascher, réformer le temps, donc il faut faire une réforme du temps. Qu'est-ce que vous proposeriez au président de la République
en quelques mots ? Je vais m'abstenir de lui donner des conseils. Je crois qu'il mène sa politique dans une autre perspective que celle qui m'intéresserait. Donc, voilà. Mais effectivement, on voit bien cette accélération du temps, du rythme. du rythme des réformes. Donc chaque réforme permettant un peu de cacher la précédente ou de dévier l'attention. Et donc chacune s'oblitère l'une l'autre. On est effectivement dans cette accélération là, du côté du politique qui, la plupart du temps, n'est pas soumis exactement à ce même rythme. Mais c'est comme c'est précisément le rythme de l'économie qui là aussi s'impose d'une certaine manière dans le champ politique.
Jérôme Haché, merci. En tout cas, décélération pour l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot qui annonce qu'elle arrête la politique, mais elle va prendre quand même la tête de l'ONG Oxfam France. L'actualité à l'étranger avec au Brésil les juges du tribunal suprême qui sont sur le point de rejeter le recours de l'ancien président Lula da Silva qui conteste, on le sait, sa condamnation à 12 ans de prison. Il y a eu un vote clé hier qui a été enregistré, celui de la juge Rosa Weber qui s'est prononcée contre donc sa demande de ne pas être incarcérée et les juges du tribunal suprême fédéral pourraient voter en majorité comme elle, Eric Bégala.
Lula devrait entrer en prison ces prochains jours, le temps que la procédure administrative commandant son incarcération soit achevée. Classiquement au Brésil, les personnes condamnées, mais ayant fait appel, pouvaient demeurer libres de leur mouvement. Tant que toutes les procédures d'appel n'étaient pas achevées, il y en a deux au Brésil. Mais un jugement de 2016 ayant fait jurisprudence, la Cour suprême a finalement décidé de son incarcération après un premier jugement en appel perdu par l'ex-président. Accusé de corruption, il aurait bénéficié d'un luxueux appartement d'une valeur $1 million contre certaines largesses accordé à la firme d'ingénierie OAS. Lula a été condamné en première instance à 9 ans de prison, peine aggravée en appel à 12 ans de réclusion. Aujourd'hui, l'ancien président, qui se représentait 8 ans après avoir quitté le pouvoir, faisait la course en tête dans les sondages en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Manifestement, il ne pourra pas poursuivre sa campagne. Rattrapé par les affaires, Lula reste perçu comme près du peuple, dispose encore d'un réservoir de voix considérable, notamment dans les régions pauvres du nord-est du pays dont il est originaire. Mais il est aussi détesté par toute une autre partie de la population et de nombreuses voix se sont élevées pour saluer la décision de la Cour suprême. Mardi soir, veille du jugement, près de 20 000 personnes avaient manifesté dans les plus grandes villes du pays pour réclamer son incarcération.
Le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, viendra en visite officielle en France les 9 et 10 avril prochains. L'Élysée parle de nouer un nouveau partenariat stratégique franco-saoudien. Et puis le régime continue d'envoyer des signaux d'ouverture avec l'annonce qu'un cinéma va ouvrir le 18 avril à Riyad. C'est la première fois depuis près de 40 ans en Arabie Saoudite. À Brooklyn, des policiers abattent un noir qui pointait un tuyau d'arrosage qu'ils ont pris pour une arme apparemment, provoquant en tout cas des tensions dans ce quartier de Brooklyn sur fond de controverses toujours vives sur les violences policières. D'ailleurs, peu après la fusillade, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux dans un face-à-face parfois tendu avec des policiers qui étaient déployés. Comment se sont d'abord déroulés les faits, Mathieu Laurent?
Il est 16h40 à Brooklyn quand la police reçoit plusieurs appels au 911. Trois au total. Trois personnes décrivant un homme avec une arme pointée sur les passants. Même description des faits sur les caméras de surveillance, ajoute un responsable de la police. La suite de l'argumentaire de ce responsable est accablante. À l'arrivée de la patrouille, l'homme aurait, je cite, pris une posture de tir, les deux mains sur un objet métallique avec un bouton sur la fin. Objet pointé sur 5 policiers. 4 d'entre eux ouvrent le feu. Il est 16h42. 10 balles atteignent Saïd Wassel qui s'effondre. Un tuyau d'arrosage à la main. 27 secondes plus tard, la patrouille demande l'envoi d'une ambulance. Saïd Wassel, 34 ans, qui a quitté sa Jamaïque natale à l'âge de 6 ans, souffrait de troubles bipolaires. Hospitalisé à plusieurs reprises, Saïd Wassel n'a jamais eu de comportement violent, soudeur de formation. Il élevait un fils, Tishon, 15 ans, qui déclare au Daily Mail « Il a toujours pris soin de moi. » De la violence, il y eut, vous l'avez dit Antoine, hier soir, dans ce quartier noir de Brooklyn. Les voisins et amis de Saïd Wassel ont hurlé de colère et crié à l'injustice. Des membres de sa famille ont affronté des vigiles qui les ont empêchés de se rendre à la morgue de l'hôpital. En octobre 2016, la police new-yorkaise avait abattu une femme souffrant de troubles mentaux dans son appartement du Bronx. Le policier avait été inculpé, puis acquitté.
Mathieu Laurent, merci beaucoup. Il est 1h10, l'invité de la séquence interview, c'est notre consoeur Manon Kérouille-Brunel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La part du ghetto chez Fayard », que nous présente Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour Manon Kérouille-Brunel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, grand reporter. C'est d'ailleurs un métier qui vous a conduit en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, entre autres. Et donc dans ce quartier de Seine-Saint-Denis, que vous ne nommez pas dans votre livre « La part du ghetto », mais que vous avez arpenté pendant un an avec, et il n'est pas là aujourd'hui, mais il est incontournable dans le livre, le co-auteur de cet ouvrage, Malek Dehoun. Alors qui est-il, lui, Malek Dehoun, et pourquoi est-ce que son regard est si essentiel dans votre démarche?
Il est un jeune homme de 36 ans qui est né et qui a grandi dans cette cité du 93 et qui effectivement m'a beaucoup épaulé dans ce travail d'écoute et de confiance. Il y a eu des personnages qui appartiennent au grand banditisme, d'autres qui sont de petits voyous. On a aussi beaucoup travaillé autour de la prostitution, donc c'est des domaines dans lesquels on ne rentre pas facilement.
Lui vous a ouvert des portes par les connaissances qu'il a de ce
Exactement,
quartier.
Exactement.
Et il y a aussi un regard, il y a aussi, il donne des choses, il donne une vision aussi de ce quartier, de l'évolution qu'il y a entre les jeunes que vous côtoyez dans cette enquête et le jeune qu'il a été lui 20 ans plus tôt. Alors c'est quoi le décalage qui saute aux yeux?
Finalement, du coup, Malek, il s'est regardé dans un miroir, ce qu'il n'avait pas forcément fait jusqu'à présent. Il y a eu ce travail de recul et de distanciation qui n'était pas possible en étant plongé au quotidien dans cette cité. Et il s'est aperçu notamment effectivement des grandes différences qui existent aujourd'hui entre les 35-40 ans et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, qui sont effectivement beaucoup moins dans la contestation, qui ne brûlent plus de voitures, qui n'ont plus d'idéaux ni d'illusions et qui se concentrent finalement sur des parcours beaucoup plus individualistes ou des façons de s'en sortir.
Il y en a qui disent voilà, on n'est pas révolutionnaire, nous on est des bourgeois avec cette idée de vouloir faire de l'argent, de vouloir s'en sortir, arracher sa part du ghetto et plus forcément contester une société française qui leur a refusé l'intégration et ce à quoi ils se sont fait une raison finalement.
En tout cas, ils n'ont pas trouvé la place qu'ils escomptaient dans la société française, et oui, ils se sont fait une raison par la force des choses. Donc aujourd'hui, ils construisent leur vie différemment, en marge d'une certaine idée de la République en tout cas, et avec cette idée que on va pas non plus cramer cet argent qu'on gagne d'une façon ou d'une autre, mais c'est surprenant de constater que beaucoup économisent, essayent de construire une maison et beaucoup aussi ont envie de retourner sur la terre des parents, retour au bled.
Donc l'idée, c'est vraiment celle de prendre un maximum ici pour aller faire sa vie ailleurs, revenir au pays.
Je résumerai pas ça comme ça, je dirais en tout cas que le nouvel Eldorado pour eux c'est plus Paris, après en avoir longtemps rêvé sans y avoir accès, c'est de retourner en Tunisie ou en Algérie sur la terre des ancêtres et de rendre un peu comme un tribut solidaire à cette terre dont les parents, les grands-parents étaient arrachés pour venir travailler en France.
Mais alors comment on fait pour gagner sa vie, si je puis dire, dans cette circonstance-là?
Alors dans les galeries de portraits que nous on a dressé, encore une fois, c'est pas une typologie des banlieues, c'est des tranches de vie dans une banlieue. Ce ne sont pas des personnages de romans, ce sont des vraies personnes. Donc, les jeunes qu'on a choisi, qu'on a choisi de suivre et qui ont accepté de se confier aussi, certains disent du shit, effectivement, ce qui est un grand classique de la banlieue. D'autres sont proxénètes, donc prostituent des jeunes filles des quartiers et se rémunèrent dessus. D'autres sont joueurs de foot, d'autres ont ouvert des cafés, des chichas.
Il y a aussi toute une délinquance financière dont vous parlez, ou des choses qui passent par Internet qu'on ne soupçonne pas forcément.
Ce qu'on appelle la délinquance 2.0, effectivement, tout ce qui est ce qu'on appelle des open, donc des ouvertures de faux comptes bancaires avec des chèques qu'on lave, c'est-à-dire dont on change le nom du bénéficiaire et qu'on peut ensuite encaisser. Et il y a effectivement toute une inventivité en fait dans cette délinquance.
Ce qui est étonnant quand même, effectivement, c'est un peu ce double côté. À la fois, on fait sérieusement des choses très illégal pour conserver un cap dans son existence.
Mais
finalement,
c'est effectivement le constat qu'on a eu nous pendant cette immersion, c'est que la vie en cité pousse à une certaine schizophrénie. Il y a un grand écart permanent entre l'envie des gens de vivre leur vie et puis aussi le besoin de se confronter et de se conformer à l'injonction tacite de la communauté. Et donc entre les deux, on construit sa vie comme ça.
Il y a une question qui revient beaucoup dans le livre. Ça crée des débats d'ailleurs avec Malek, donc votre fixeur et co-auteur. C'est la place des femmes dans l'espace public, vous dites, on ne les voit pas dans l'espace public, ou alors elles passent sans s'arrêter. Et vous disiez, ces jeunes ne rêvent plus de Paris. Elles, vous dites, elles sont à Paris, elles passent, elles prennent le métro, elles vont à Paris, elles laissent le quartier aux
Paris,
hommes. En fait.
Paris, c'est la bulle de liberté. Et effectivement, ce qui était à la base, elles n'ont pas forcément choisi, mais aujourd'hui, elles en ont largement tiré leur parti. Elles disent finalement, on a perdu quoi, nous, des tours moches et des grands frères qui nous tyrannisent à nous dire de se comporter comme des filles bien. À Paris, on est tranquille, c'est à 5 minutes du métro, et là, on peut vivre comme on a envie.
Alors vous racontez aussi que vous avez grandi vous-même dans une ZEP et que vous aviez gardé le souvenir d'une difficulté d'intégration, une frustration, vous, fille de prof, blonde et bonne élève, de ne pas arriver à vous intégrer. Vous avez réglé un compte avec la banlieue, avec ce livre ?
Ça m'a sans doute fait gagner quelques années de psychanalyse, je ne sais pas. Mais effectivement, oui, j'y suis retournée, pas en traînant des pieds, mais avec des appréhensions, notamment sur les violences des rapports qui avaient pu me heurter beaucoup à l'époque. Et y retourner sans y vivre, donc encore une fois, les enjeux sont différents. Mmh. Mais ça m'a réconciliée, effectivement, avec beaucoup de choses.
Manon Kérouille-Brunel, merci beaucoup d'être venue dans ce studio. Vous avez écrit donc ce livre, il s'appelle « La part du ghetto », cette enquête qui est publiée chez Fayard. Amélioration générale du côté de la météo par l'ouest, des températures qui vont légèrement baisser cet après-midi de 10 à 20 quand même, du nord au sud, édition réalisée avec Yacine Bouzard, et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.